Allez, la suite avec le musicien poète qui présente son nouveau recueil de poésie, Les Îles, aux éditions du Lys Bleu, Michel Yvogneau, nous invite à prendre part à une odyssée poétique et je l'invite à nous emmener aussi loin qu'il pourra. Imaginez un voyage d'île en île à travers de nombreux textes riches en sonorités et émotions, dont certains sont mis en musique par l'artiste. Michel Yvogneau est venu présenter son nouveau livre au micro de Fréquence Mistral. La preuve, il est là. Bonjour Michel.
Bonjour James, bonjour à tous les auditeurs.
Et les auditrices, ne les oublions pas.
C'est un terme générique.
C'est un terme générique. Je m'adresse aux poètes, les mots sont importants. Michel... Il est sorti enfin ?
Absolument. Un manuscrit que j'ai composé pendant l'été à partir d'un certain nombre de textes que j'avais et que j'ai proposé à une dizaine d'éditeurs. Et j'ai eu jusqu'à ce jour deux réponses favorables. Et donc je n'ai pas laissé passer la première occasion. J'ai signé un contrat avec la maison d'édition qui s'appelle Le Lys Bleu à Paris. Et qui a fait un retour à mon courrier extrêmement élogieux, et j'en étais très content, qui ont reconnu mon travail. Le comité de lecture a donc décidé de prendre mon livre dans les éditions Le Lys Bleu, donc c'était vraiment une très bonne nouvelle pour moi.
Juste avant de parler poésie, parce que la poésie se lit, elle se dit, on parle des dits en poésie. Tiens, une interférence bizarre qui explose dans le micro. La maison du Lys Bleu a été fondée en 2017 par Benoît Cousy et Guy Migraine. Le premier est auteur de plusieurs romans et directeur d'une agence littéraire. Le second est issu du monde commercial et a mis son expertise au service du Lys Bleu Édition. Il ne s'agissait pas pour eux de créer une énième maison, il en existe quelques 10 000 en France. C'est vrai que nous sommes un pays
Absolument. Où
il y a beaucoup de maisons d'édition et il y a beaucoup de librairies indépendantes. Mais c'est pour simplement permettre à des auteurs qui ne seraient pas publiés par les maisons existantes de se révéler au public. Car lorsqu'une création poétique est aboutie, c'est juste quelque chose à partager et très très vite, l'auteur s'en dépossède. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Je suis absolument d'accord, parce qu'effectivement, les textes existent. Les textes sont des choses très très personnelles, bien entendu, ça relève de l'intime. Mais lorsque quelqu'un d'autre les lit, quelqu'un d'autre en prend possession, c'est son univers auquel le texte s'adresse finalement.
Univers qui est magnifié notamment par des corps de métier dont on ne parle pas. On ne parle pas beaucoup de ces corps de métier, dont on parle peu. Les imprimeurs, les distributeurs et les diffuseurs. C'est important d'être imprimé, évidemment, c'est sûr, sinon le livre n'existe pas. Le distributeur et le diffuseur. Parce qu'aujourd'hui, pour se faire connaître, c'est pas se faire connaître pour devenir célèbre, c'est simplement de partager sa poésie. On est bien d'accord, monsieur?
Absolument, absolument. Tu as tout à fait raison. Et vraiment, c'est tout un ensemble de corps de métier qui participe à la production d'un livre. C'est pas simple du tout, mais en même temps, ça peut se faire très très bien, bien sûr, parce que les gens sont compétents, ils sont dans leur métier. Et puis, c'est un appui qui est vraiment nécessaire.
la distribution d'un livre, souvent quand c'est à compte d'auteur, il y a une connotation péjorative. Tu n'as pas accès à certains festivals, tu te vois bloqué, alors que je rappelle quand même pour la petite histoire qu'un certain Jean d'Ormesson, qui n'était quand même pas un auteur à piquer des hannetons, même si quelquefois ses idées politiques me faisaient hérisser le peu de cheveux qui me restaient sur la tête, mais revenons à nos moutons, c'est quand même un gars qui s'est auto-édité dès le départ et qui a créé ensuite évidemment sa propre maison d'édition. Il y a aussi Stephen King qui a envoyé bouler ses éditeurs en disant « Mais moi, maintenant, j'ai plus besoin de votre communication et de la notoriété que vous représentez avec votre nom ». La maison d'édition qui est importante et il faut qu'elle existe et il y a des gens qui ont du talent. Le talent, ça se mesure comment en matière d'écriture ?
Le talent, ça se mesure, je dirais, non pas en termes d'éditeur, mais ça se mesure aussi sur la longévité. Ça se mesure dans le temps et avec... Même si l'on a une diffusion, je dirais, confidentielle et qu'on touche un certain nombre de personnes... même, je dirais, réduit, eh bien, le talent, c'est cela. C'est-à-dire que le message passe, et il passe à certaines personnes qui sont, disons, prédisposées à l'entendre et à le comprendre. Tout le monde comprend tout, mais pas au même moment, je dirais.
Pas au même moment. En tout cas, cette maison d'édition, le Lys Bleu Édition, ça s'appelle, édition au pluriel, puisqu'ils font toutes sortes de littérature, aussi bien des romans, des recueils de poésie,
des essais,
des romans policiers, absolument. Pourquoi pas de la science-fiction. Enfin bref, tout ça permet à des auteurs qui n'ont pas été choisis par, on va dire, soit des maisons d'édition qui ont un petit peu pignon sur rue, ou d'autres qui sont noyés parmi les 10 000 maisons d'édition. Je rappelle qu'on est dans une région où il y a beaucoup d'éditeurs, notamment à Fort-Calquier, qui est quand même un pays du livre. Il y a Corbière aussi, à un moment donné, il y avait un ou deux éditeurs qui y étaient. Bon, bref, c'est pour dire que le pays du livre, est-ce que la France ne serait pas tout simplement le pays du livre, sans parler de territorialité?
Dans la tradition, c'est vrai, mais on peut parler de l'Europe entière, hein, parce que bon, il y a aussi de prestigieuses éditions en Italie, au Royaume-Uni, en Angleterre et en Allemagne, bien sûr, et en Belgique. L'Espagne aussi compte des maisons prestigieuses. Et les maisons d'édition, finalement, se valent les unes les autres, je veux dire, à partir du moment où l'une fait confiance à un auteur et qu'elle s'engage avec lui. L'engagement est réciproque, et puis il n'est plus question de grande diffusion ou de petite diffusion. C'est une diffusion, elle existe, et les livres se trouvent. Pour ce qui me concerne, par exemple, avec le Lys Bleu, je vais donc être distribué dans tous les grands centres de distribution. Pour le livre, il suffira de commander, par exemple, sur le site Le Lys Bleu.
Vous aurez tous les points aussi de vente. On peut retrouver à la FNAC, par exemple.
Par exemple, on peut demander, effectivement. Alors là, comme le livre vient d'être publié, peut-être un petit délai est nécessaire dans ces lieux-là en particulier. Par exemple, à Manosque, je suis passé aux deux librairies de Manosque, le Poivre d'Âne, par exemple, qui m'a dit qu'il allait se renseigner. Et puis, on peut commander le livre à sa librairie, par exemple. Et puis, le Petit Pois, la personne très sympa du Petit Pois, m'a pris deux livres, déjà, que j'avais avec moi.
Et rendant hommage à ces libraires indépendants, alors le Petit Pois à Manosque, mais il y a aussi la librairie La Carline à Fort-Calquier, il y a aussi, n'oublions pas nos amis de Regain à Rayanne.
À Rayanne, bien entendu.
Qui organise aussi des rencontres avec les auteurs,
mais
et
absolument.
Des rencontres aussi en lecture musicale. Ouais. Nous avons eu la chance de pouvoir y participer,
mais
puisque toi et moi, nous faisons aussi des lectures musicales.
Absolument.
On va en profiter pour parler de notre art réciproque, pas pour parler du mien, mais pour parler du tien. Ton credo, c'est de faire découvrir ta poésie, de la partager. Absolument. La partages en musique, tu la partages en émotion, tu la partages. Est-ce que une fois qu'elle est partagée, tu peux dire que elle t'appartient toujours, cette poésie?
Oui, bien sûr qu'elle m'appartient, parce qu'elle vit en moi. Hein, et puis, moi, les textes, je les ai, ils sont dans ma tête. Une fois que je les ai écrits, ils sont vraiment dans ma tête, tu vois. Et puis bon, quand elle est partagée, ben on a, et quand on a un retour direct du public, c'est vraiment très très intéressant. Même plus que ça, c'est gratifiant, quoi. Et puis il s'instaure un véritable échange. C'est un peu bateau de le dire, mais c'est la réalité. C'est la réalité.
La réalité. Je tenais absolument à parler un petit peu comment on fait pour se faire éditer. C'est ce qu'on a essayé de comprendre, de voir un petit peu qu'il y a tout un tas de corps de métier qui font qu'un livre existe. Il y a effectivement l'auteur. Tu es un auteur, donc tu écris. Tu peux l'écrire de manière manuscrite. Tu peux l'écrire aussi avec ton ordinateur. Comment est-ce que tu écris, toi ?
Eh bien, écoute, les idées sont volent tout le temps dans ma tête, donc je suis j'ai en permanence sur moi un carnet, un stylo, je note les idées qui sont là.
Un carnet de Moleskine ?
Pas du tout, quelque chose de très banal, de très banal. Je vais au plus simple, mais aussi au plus pratique. Hein.
Au plus pratique.
Le carnet, petit format, petit avec format. Un stylo qui marche par tous les temps.
Surtout.
Et dans toutes les occasions. Donc, par exemple, si je suis arrêté au feu rouge et que ça pousse un peu derrière, c'est que je suis en train d'écrire quelque chose.
Oui.
Enfin, bon.
Comment
voilà.
Expliquer ça à la maréchaussée ?
Exactement. Circuler.
Circuler,
il n'y a rien à voir. Mais bon, voilà, quoi. Et ensuite, je me mets au travail. Une fois que les idées sont là, je me mets sur l'ordi et je travaille directement dessus. Voilà.
Alors, une fois sorti le petit papier avec les idées qui volent un petit peu comme des papillons l'été, là, hein, on essaye de réunir tout ça, on en fait un recueil. Et je le rappelle, avant de passer à rentrer, on allait dire dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que tu vas lire des poèmes.
Absolument.
Je tiens à remercier les imprimeurs, les distributeurs, les diffuseurs, les collaborateurs divers et variés, expérimentés, comme les rédacteurs, les metteurs en page, les correcteurs, les graphistes. Regardez tous les corps de métier qu'il faut pour sortir ne serait-ce qu'une petite pépite. Cette petite pépite, tu l'as sortie, ça s'appelle « Les îles » aux éditions du Lys Bleu. On va rentrer petit à petit dans le monde de la poésie, après avoir parlé de façon pragmatique comment on arrive à vivre dans ce monde et vendre quelque chose qui n'est autre, bien autre
être
chose que
fascination torrent
qu'un produit commercial.
Dans le noir des toiles, étagement non visible d'empire, débris d'une pluie armée, nous aurons nos mardis et nous rappellerons les champs de blé à notre table. Nous nous appellerons les volontaires.
Voilà ce que ça peut donner, la poésie, une fois lue et accompagnée de musique. C'était ta voix qu'on entendait. Tu peux nous rappeler ce projet ?
Bien sûr. Ce projet s'appelle l'Opéra des Résistances. Et pour information, les textes ne sont pas lus, mais ils sont interprétés. J'ai tout ça dans la tête. Et puis, c'est une interprétation en direct, en live. Et il ne s'agit pas de lecture, donc c'est beaucoup plus vivant qu'une lecture, je dirais. Et donc, l'Opéra des Résistances, c'est une œuvre collective. Les textes sont de moi, mais l'ensemble musical est une idée à la base de Sébastien Lalys. Et qui est
aux éditions du Lys, et c'est Sébastien Lalys qui fait la musique. Oh là là, ça rime tout ça.
Avec, en l'occurrence, L-I-2-S-E.
Ouais,
mais bon,
voilà,
Sébastien, bien sûr. Et dans l'extrait qu'on a entendu, On a Alain Souler à la guitare, Cédric Beck à la batterie et Olivier Chabas à la contrebasse.
On rend leur hommage, et notamment à ce guitariste qui est baigné dans le jazz, on est bien d'accord.
Ah oui, Alain, oui, bien sûr, Alain Souler. Oui,
Alain Souler qui a collaboré avec de nombreux artistes d'ici et d'ailleurs.
Bien sûr.
Alors, saluons-le, notre
bien
ami.
Bien entendu. Et Alain est présent par l'esprit dans un autre des textes qu'il y a dans mon livre, par exemple, qui est un extrait d'un autre spectacle qui s'appelle L'Évangile de Monk, qui est sur le même principe. Et L'Évangile de Monk a été fait, a été élaboré donc par Alain Souler. Et puis, donc, il m'a sollicité pour les textes, donc j'ai écrit des textes aussi, dont l'un est dans ce recueil. Un texte qui s'appelle Trans.
Et que tu vas nous lire sur une musique de Daniel Mill.
Alors, je vais...
J'envoie la musique. Aujourd'hui, Michel Ivonio, musicien-poète.
Allons, à quoi bon faire éclater le silex? Taillé dans la vague, à quoi bon? Le thorax est enflé de tous les choix. Nous aurons la page stérile et indifférente, la lave vitrifiée de milliards de corps sous la nuée du psychisme terrestre. À quoi bon faire mentir sa propre image? Nous aurons les rails verbeux d'une fiction ultra-puissante. Nous aurons le désert à Brest, à Winnipeg. C'est écrit. Mes yeux roulent sur le quai désert. Le nom dit s'affiche aux fenêtres. Trans, ne me parlez plus, j'habite votre corps. Être libre, c'est mon labour, c'est ma prison d'avenir. J'entends les colchiques, j'entends les vases, j'entends tous les départs.
J'entends tous les départs. Le départ, les départs. C'est les grandes répétitions avant le grand départ final. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu as voulu dire?
Ah,
ou exprimer.
Ce que j'ai voulu dire là, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est du domaine du ressenti. Et c'est une espèce d'emportement poétique et d'emportement sensoriel. Avec la perception de tout ce qui nous entoure. Et comme ce poème est inséré dans l'Évangile de Monk, le spectacle s'appelle l'Évangile de Monk, c'est également aussi un hommage à la folie intérieure de Thelonious Monk, tel qu'on en voit quelquefois les signes extérieurs dans son interprétation et dans ses mouvements lorsqu'il est au piano. C'est un peu ça.
Bah, ce sont de vrais signes extérieurs de richesse,
ah,
de
si
richesse
tu veux,
spirituelle.
De richesse intérieure.
De richesse intérieure et donc spirituelle.
Ouais.
La poésie, c'est quand tu vis. Et c'est une phrase que j'ai lue d'un aimable lecteur qui a envoyé juste un petit commentaire concernant la suite d'un spectacle poétique mis en musique. La poésie, c'est quand tu vis. Est-ce que tu penses que la poésie, elle a une intemporalité permanente?
Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est une grande méditation, la poésie. Et c'est une méditation qui nous habite. On est baigné par ça. On est baigné par ça. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on ne se décrète pas, hein, poète. On ne se décrète pas du tout. Ça sera, disons, la vie d'autres personnes. mais on est habité par la poésie. Ça, c'est une autre chose. Et ça, c'est l'intimité. Et c'est dans l'intimité que se font les choses, quoi.
Les poètes oulipiens parlent d'événements poétiques. Pour toi, c'est quoi un événement poétique ? Toi qui n'es ni oulipien, ni encarté dans n'importe quelle pensée culturelle ou peut-être politique, j'en sais rien, mais en tout cas, tu es poète et ça te suffit bien, c'est déjà pas mal de boulot.
Et oui. Et
la poésie, comment tu la vis, comment tu la vis au quotidien en fait.
Tu mets le doigt sur quelque chose d'important. D'être d'aucune école, ça ne veut pas dire non plus de ne pas avoir d'affinité. Il y a des affinités électives, n'est-ce pas ? Comme disait Goethe. Et en même temps, on peut être seul avec ses affinités électives, on peut être seul avec les connexions, les mains tendues par des poètes par-dessus les siècles. Et puis on peut être aussi un rebelle, par exemple comme ceci. Rebelle, nous tenons nos fortunes aux traverses, nous dormons seuls et froids, nous allons seuls aux moulures du bitume, nous mangeons des brumes au chemin brodé, nous sommes écorchés et oxy, sans connaître l'amour qui nous lie à jamais.
L'amour qui nous lie à jamais. Je ne peux pas m'empêcher de faire des jeux de mots. Est-ce que l'amour a des yeux et peut lire de la poésie ? Alors ça, on peut l'imaginer d'une manière métaphorique ou peut-être tout simplement rêve éveillé. La question, je reviens sur la question de l'événement poétique. Comment est-ce que tu sens qu'il se passe un événement poétique ?
L'événement poétique, tel que je le traduirais, hein, sur cette question où tu veux vraiment me chercher dans les recoins, je dirais.
Je veux te sonder, veux tout savoir de ce que tu as à l'intérieur.
Eh bien, j'appellerais ça, en d'autres termes, une inspiration, parce que c'est vraiment ça. L'événement poétique, c'est pas l'événement qu'on décrète et qu'on met en scène, pas du tout. Il peut se passer de la poésie en scène, c'est évident. Mais l'événement poétique, ça concerne l'inspiration, ça concerne le moment, l'instant. C'est plus que fugace, mais c'est très, très intense. C'est ça, l'événement poétique. Mais ça se trouve dans la rue, ça se trouve tout le temps. Tu vois, ça se trouve tout le temps. Personne ne peut se décréter, ne peut avoir le pouvoir sur ça. C'est pas une affaire de pouvoir, justement.
Affaire de regard ?
C'est une affaire de regard et de ressenti. Et puis, c'est aussi les gens qu'on croise, par exemple. Comme, par exemple, dans ce poème qui s'appelle « Samedi soir ». Je veux dire quelque chose pour le samedi soir. J'ai croisé des gens aujourd'hui. Le samedi soir n'est pas pour eux. Ils sont des gens de la semaine, sévèrement. Leur visage est un piano endeuillé. Leurs vêtements sont sans obstacle. La vie change si vite. Jadis, ils possédaient une tristesse, des joies, quelques terrasses rêveuses au-dessus du lac, des amours contrariés, neuves ou lointaines, des journées pleines ou bien stériles, selon. L'autre année encore, devant les brasiers, ils passèrent un gilet de la couleur du soleil sur leurs marches sinueuses et leurs bâtardes clameurs. Une élégance collective, bigarrée, gonflement de poitrines fraternelles et timides. Une élégance envers toute défaite. À la toute fin, il leur fut refusé la voie de la sanctification par le massacre. Ils reçurent, seuls, l'injure crachée de quelques amputations. Comme pour eux aujourd'hui, je ne sens plus ma veste. Ma peau s'étonne et s'arrache. Et je marche à travers les grilles, les griffes. Je prie pour eux et pour moi-même. Je lève mon verre. Je prie pour le samedi soir.
Le samedi soir, il s'en passe des choses, hein.
Absolument.
Alors, je vais faire un petit clin d'œil à notre ami Léo.
Soir de Saturne.
Léo, oui, tu pars carrément vers la voûte céleste.
Les astres sont présents.
Les 12 et bien au-dessus. Ah, mais non, c'est compris dedans, en fait.
Les astres parlent.
Les astres parlent. Des astres parlent. Le désastre parle aussi, et
absolument,
la joie aussi, du coup, qui en résulte. Le chaos amène souvent,
oui,
la joie.
Il amène aussi l'harmonie.
Allez, carte du tarot de Marseille, la maison Dieu, avec son cortège d'illumination et ses retombées en feu follet qui viennent mourir dans l'eau lunaire.
Si tu veux.
Là, nos auditrices et nos auditeurs vont se demander si on n'est pas complètement barré dans la quatrième dimension. Non, on parle de poésie.
On parle de poésie.
Et la poésie, c'est quand tu vis.
Et par exemple, quand tu parles de l'eau, je te parle du torrent, par exemple. Je préfère le pain sec, le fromage de pierre, le vin joyeux, affriolant et rocailleux, la viande sèche et le soleil acide. Je préfère l'eau très froide du bain au torrent. L'eau électrique et son discours identique à mon éveil nocturne effrayé, à mes rêves guerriers identiques à mes rêves de paix. Je préfère l'eau froide et son appel engageant. Le discours, je sens, est neuf, proche comme le raisin amical, un arôme à la lisière, mais très ancien aussi, uni de l'épaisseur terrestre. Le discours d'un ciel nu et déserté, tel une expérience de la paix. Le discours de l'être profond, essentiel. Mes limites sont encore entourées de brume. Ma limite serait-elle fille de l'ennui ? Soudain, je suis reconnu par le bonheur torrentiel, par le rite.
Tu nous parles de quelque chose qui pourrait être... évidemment, on parle de spiritualité. On est sur une terre alchimique ici, une terre qui parle aux poètes, mais qui parle aussi aux personnes qui se promènent dans la colline et qui quelquefois donnent un petit peu un avis sur le regard qu'ils portent de leur point de vue. Jodorowsky appelle ça la danse de la réalité. Nous dansons tous dans notre réalité, on essaye de trouver des points d'accord, et quel merveilleux endroit que la nature, par exemple, pour pouvoir discuter poésie sans même en avoir conscience, ne serait-ce que d'échanger sur les éléments qui nous entourent. Est-ce que la nature, pour toi, est une source d'inspiration ?
Oui, je peux dire que oui. Elle est une source d'inspiration. Je définirais pas ça comme telle, mais je dirais qu'elle participe de l'inspiration. Elle participe, le regard qu'on porte, les saveurs qu'on en retire, les parfums qui sont dans la nature et qui nous font prendre conscience, effectivement, que nous participons de cette nature, nous, en retour. On est partie prenante de cette chose-là. Mais je ne suis pas dans le naturalisme. C'est quelque chose de différent. Mais c'est quelque chose qui tend au spirituel, c'est certain.
Spirituel, si je dis du spirituel, on va passer à une partie qui intéresse beaucoup de personnes, souvent en secret, ils n'en parlent pas trop. Si je te parle, poésie et ésotérisme.
Oui, il y a une compatibilité, il y a un terrain commun. Si on veut définir l'ésotérisme comme les choses cachées, par exemple, eh bien dans la poésie, des choses sont cachées et des choses se dévoilent. Et elles se dévoilent comme on enlève un voile. Un voile qu'on a devant les yeux et qui est un voile, je dirais, culturel, un voile pesant, de la pesanteur des siècles, finalement. Et ce voile, l'ésotérisme permet, disons, une approche initiatique, de l'enlever, ce voile. de le faire partir.
Penses-tu que le poète, pardon, est un oracle avant d'être un réceptacle, ou le contraire, ou les deux, mon capitaine ? Oh, capitaine, ou mon capitaine.
Alors ça, ben, l'oracle étant la prédiction du jour, on pourrait dire, effectivement, si on fait, ou si on a une pensée par jour, et qu'on la note, et qu'on la travaille, et qu'on va au plus profond de cette pensée, qu'on la décortique, mais en même temps qu'on la transforme, qu'on la fait vivre, qu'on lui donne une autre vie, par exemple, oui, l'oracle est de la poésie, c'est de la poésie, oui, c'est ça, ouais, c'est un signe, en tout cas, c'est un signe. Tu sais, l'oracle, c'est les nuages qui sont dans le ciel et qui sont traversés d'une certaine façon par les oiseaux, et à ce moment-là, le prêtre interprète le passage de l'oiseau dans les nuages, dans le ciel, et donc il va délivrer ensuite l'oracle. On peut dire que le poète a une vocation assez similaire, finalement. C'est pas faux, hein, on peut être là-dedans.
Je parle de réceptacle, parce que est-ce qu'on construit une poésie de manière intellectuelle, ou est-ce qu'on peut aussi penser qu'on est juste un réceptacle, en fait, on est simplement un fusible entre l'immensément grand et l'immensément petit. Et au milieu, il y a le poète qui reçoit des messages. Est-ce que tu comprends toujours du premier coup ce que tu écris ?
Oui, absolument. Pour moi, c'est d'une clarté évidente. C'est en cela que je parlais tout à l'heure d'inspiration, mais c'est-à-dire, les mots sont les mots. C'est-à-dire, si par exemple, un poème peut paraître hermétique à quelqu'un, par exemple à une autre personne, il n'est pas question pour moi de composer un autre poème pour expliquer le premier. Ça n'a pas de sens. C'est dans le premier que se trouve tout le sens. C'est dans le premier que se trouve le dépassement qui permet de dire qu'on fait ou pas quelque chose d'important pour les autres. Et ça, on le ressent personnellement. Et les autres ne peuvent très bien ne pas le recevoir. Mais je suis plutôt d'un avis contraire au tien sur le plan du réceptacle. Le réceptacle, c'est évident qu'on a des antennes pour tout ce qui se passe autour, toutes les informations qui nous arrivent, je dirais. Oui, tout ça, on l'enregistre en quelque sorte, mais c'est quand même très intellectuel, la formation de la poésie, la formation d'une écriture. Il y a une intellectualité au sens noble, hein, je dis pas, il n'y a pas de, comment dire, il y a aucun terme dévalorisant dans ça, au contraire, c'est de l'intellectualité pure, quoi. Et seulement, ça n'est pas que ça, c'est une synthèse, je dirais. L'image poétique est une synthèse de l'émotion et de la pensée. C'est ainsi que je la vis, hein.
C'est une synthèse qui pourrait être à l'image des éléments qui nous composent. Est-ce que c'est une synthèse entre l'air, le feu, la terre ?
Absolument.
Et l'eau.
L'eau, bien sûr. Et par exemple, le soleil.
Le feu.
Le soleil est une île. Soleil, le soleil est une île. Théâtre d'un exil prophétique. Ode cosmique en mon cœur voyageur. Dogme de feu déployé. Ces chromatismes saturent les plaines et l'histoire, magnétisme de l'air. Les scènes vont à l'ivoire gravé de nos lendemains mythiques. Vaisseaux au prix des traînées de méthane, brasiers de platine et d'or, songes formés des racines diaphanes, nous logerons demain à nos délices, nous surnaturels. Nous serons demain les fils du soleil roi du ciel. Soleil, le soleil est une île, île cathédrale conquérante, rosace de consolation à l'éveil des falaises. La vague inquiète se retire, un long soupir d'île alanguie prolonge ma prière unitive. L'effroi et les parures de l'ennui sont en flammes, fugue des drames. Mes cheveux font de l'ombre à l'acier des heures. Orage et marée de titane au ciel incandescent, bannière d'argent déroulée au vent gracile. Le soleil est une île. Ah, mais vous le croyez mort quand il pense et s'endort.
Ça fait presque 45 minutes que nous parlons ensemble. On pourrait parler comme ça pendant des heures. Je vais bientôt t'inviter pour une spéciale poésie. On invitera d'autres poètes. On fera un très joli plateau. Là, il va falloir qu'on passe à autre chose. Je pense que le dernier poème que tu as interprété, ce sera le poème qui donnera le mot de la fin. Mais juste avant, merci Michel.
Merci à toi, James. Vraiment, plaisir ici.
Tu es le bienvenu ici. Sur notre antenne, on parlait d'oracle, de réceptacle. Ici, on a des émetteurs et des récepteurs. Les auditrices et les auditeurs ont été certainement très réceptifs de ta poésie.
Ah, j'espère bien.
Messagère, merci beaucoup.
Merci, James.
À bientôt, Michel. À de suite.